je vais vous parler du projet de phénoménologie à subjectif de Patočka. Permettez-moi de vous tracer très vite l'histoire de sa contribution à la phénoménologie avant de commencer, avant d'attaquer. D'ailleurs, je commencerai dans l'ordre inverse. Je vais vous présenter les critiques que Patočka adresse à Husserl et ensuite l'héritage aristotélicien. Donc, c'est l'inverse du titre que j'ai proposé. Patočka a été l'élève de Husserl et de Heidegger. D'ailleurs, il a rencontré Husserl dans les années 30. Il était à Paris, Patočka, il était à la Sorbonne. Et au moment où Husserl est venu donner les fameuses conférences qui sont devenues ensuite les méditations cartésiennes. Il a suivi Husserl à Fribourg. Husserl a essayé de l'empêcher d'aller dans les cours de Heidegger aussi, mais il a, grâce à l'amitié de Fink, il a eu accès aussi aux cours d'Heidegger, et d'ailleurs il a sorti un argument très bureaucratique: ma bourse m'oblige d'écouter aussi Heidegger, et Husserl l'a accepté, disons, l'explication. C'est Patočka qui a invité Husserl à Prague dans les années 30, en 34-35, pour donner les conférences qui sont devenues la crise de Husserl. Et donc, le dernier Husserl est déjà lié à une réflexion que Patočka avait entamée avec lui, et des discussions d'ailleurs qui ont été continuées par Fink et par d'autres. Dans les années 40, il a publié à la fin des années 30 un ouvrage, Le monde naturel comme problème philosophique, qui est très husserlien, très husserlien, très dernier Husserl. C'est un prolongement de la crise, d'ailleurs brillant. Dans les années 40, il commence déjà à entamer ses critiques envers Husserl, envers son premier maître fribourgeois, en prenant en compte la contribution d'Heidegger. Il fait littéralement la synthèse. Il est d'ailleurs le plus convaincant à défendre l'unité de la phénoménologie dans un texte très tardif. C'est une année avant sa mort, en 77. Donc, c'est en 76, il publie « Qu'est-ce que la phénoménologie ?», le texte qui donne le titre de l'ouvrage qui recueille pas mal de ses articles de la période tardive. « Qu'est-ce que la phénoménologie ?» traduit en français par Eric Abrams. Dans les années 50, il s'occupe d'autres choses déjà. Dans les années 40, il reprend la phénoménologie, il essaie de pointer les critiques et de trouver l'unité. Dans les années 50, il s'occupe de Platon. Il donne cours à la faculté de Prague, à l'Université Charles de Prague, sur les présocratiques, Socrate, Platon. Il n'arrive pas à Aristote. Ensuite, il y a la guerre, l'histoire l'oblige de faire autre chose. Dans les années 50, son projet philosophique, donc de continuation de la phénoménologie, mais aussi de penser l'unité de l'Europe, se concentre sur la figure de Platon. Dans les années 60, il arrive finalement à Aristote et tout change. Après Aristote, la fin de la décennie des années 60 et le début des années 70 sont la période la plus féconde. Patočka avait déjà 60 ans, 60 et quelques. C'est la période la plus féconde de sa pensée, la plus radicale, la plus intéressante pour nous. Et Patočka est le responsable de la critique la plus dévastatrice adressée à la fois à Husserl et Heidegger. Donc la phénoménologie n'est plus la même depuis sa contribution. On a mis du temps à nous rendre compte, à retrouver ces textes et à les prendre au sérieux, mais grâce à Marc Richir, à Renaud Barbaras notamment, la phénoménologie a pris en compte ce qu'a fait Patočka et elle a changé. Elle a changé de visage complètement. Donc, je vais vous parler du projet. Une partie technique, je suis désolé, si vous n'êtes pas husserlien, vous la trouverez ennuyeuse, si vous êtes husserlien, vous la trouverez audacieuse, outrageuse. Raccrochez-vous. Ensuite, l'héritage d'Aristote. Je veux vous parler des textes qui sont au début des années 70, autrement dit, la période où Patočka publie quelques articles de critique contre Husserl. Chaque article est accompagné par un, voire plusieurs manuscrits de travail où il est beaucoup plus audacieux. Patočka était modeste, d'une modestie maladive. Il ne se rendait pas compte à quel point ses contributions étaient importantes. Donc, dans les textes publiés, il est gentil. Je vais me concentrer sur les textes publiés. De temps en temps, je vais vous sortir quelques citations des manuscrits. Le plus drôle est que dans les manuscrits, Eric Abrams met entre crochets, la traductrice en français, D'ailleurs, en français, on a traduit le plus de Patochka et on le prend le plus au sérieux parce que la phénoménologie désormais parle français. Donc, Erik Abrahams met entre crochets les passages que Patochka a écrits et qu'il a ensuite raturé. Et c'est là où il est le plus méchant. Donc, il était méchant aussi. Donc, dans un manuscrit de travail du début des années 70, qui est la période la plus féconde, la période de cristallisation du projet de phénoménologie asubjective, Patochka délimite de façon la plus claire le sens de sa correction de la phénoménologie. Je le cite, c'est la première citation que vous avez sous les yeux. « Quelle est la différence entre la phénoménologie subjective et la phénoménologie asubjective ? Le plan d'explication de la phénoménologie subjective se situe dans le sujet. L'apparaître de l'étant est reconduit au subjectif, le moi, le vécu, la représentation, la pensée, comme ultime base d'éclaircissement. Dans la phénoménologie asubjective, en revanche, le sujet dans son apparaître est un résultat au même titre que tout le reste. Il doit y avoir, dit Patochka dans une phrase extrêmement synthétique et mystérieuse, que j'espère vous aider à comprendre, il doit y avoir des règles a priori, tant de ma propre entrée dans l'apparition que de l'apparaître de ce que je ne suis pas. Un petit caveat lexical, Patochka parle d'apparaître à manifestation de temps en temps de donation, effectivement, ce sont des synonymes. Apparaître à moi veut dire champ phénoménal, sphère de l'apparition. Il y a quelque chose pour nous, pour moi, pour le sujet, pour quelqu'un. Quelque chose se manifeste pour quelqu'un. Voilà ce que veut dire apparaître le plus souvent. Le manuscrit en question, qui est intitulé « Corps, possibilité, monde, champ d'apparition », est rédigé en vue de la rédaction du deuxième des trois articles publiés où Patochka défend son projet de phénoménologie subjective. Il y a un article publié en 70, un article publié en 71 et un article en 75. Le premier s'appelle « Le subjectivisme de la philosophie de la phénoménologie husserlienne et la possibilité » du phénoménologie subjective. Le deuxième s'appelle le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l'exigence du phénoménologie subjective. Et le troisième s'appelle époque et réduction. La différence entre la réduction à la sphère de l'immanence et l'époque qui est une réduction généralisée. Le fait de faire attention au se montrer des choses et non pas se montrer. Je vais me concentrer sur les deux premiers articles dans ma contribution. Donc, dans ce qui suit, je me propose de vous présenter les grandes lignes publiques, disons, les plus publiques, les plus secrètes, du projet de phénoménologie subjective, qui sont en général des critiques apportées au dispositif husserlien. Et en un deuxième moment, je m'appuierai sur deux témoignages de Patochka quant à l'héritage aristotélicien et à son rôle. Je finirai par me concentrer sur la confrontation amicale avec Fink, avec Eugen Fink, son ami de longue date, qui montre aussi de manière explicite et publiée dans les manuscrits la position philosophique la plus propre à Patochka. Donc, commençons par le projet de phénoménologie subjective. Dans les deux articles dont je vous ai parlé, Patochka commence de la même manière, la possibilité et l'exigence de la phénoménologie subjective. Il commence par une présentation historique, qui est plus succincte en 70 et plus développée en 71, des motifs qui sont en fin de compte cartésiens, qui conduisent au CERL à donner à sa phénoménologie le visage subjectiviste d'un idéaliste transcendantal. Et en un deuxième moment, Patochka énumère ses critiques, en partant dans les deux articles de la réponse que Husserl cite lui-même et qu'il donne à Nathorpe, qui contestait la possibilité de saisir sa conscience, donc d'avoir un accès réflexif à la vie du sujet, de quelques autres manières que dans l'existence d'un contenu pour la conscience. Dans la réponse de Husserl à cette objection, Patochka voit le subjectivisme, je le cite, le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne à l'état naissant. Et Patochka reproche à Husserl de couper en deux pratiquement la sphère de l'apparaître, le grand ilia, que lui-même d'ailleurs dégage et découvre, en séparant d'un côté l'apparaissant s'y montrant, la chose avec ses caractères chosiques, les qualités, etc., et d'un autre côté les soi-disant caractères d'acte. C'est une expression husserlienne. les vécus, les visées, les appréhensions, etc., qui sont censés montrer, indiquer la subjectivité dans son activité constituante. Ces distinctions, en elles-mêmes possibles, hein, devraient en fait séparer les caractères chosiques, les qualités, les couleurs. Vous voyez, c'est transparent avec du bleu, c'est lourd, solide, etc. Ça, ce sont les caractères chosiques et les caractères non chosiques de la monstration. C'est douteux ou moins clair pour ceux qui sont loin. C'est donné en chair et en os et maintenant dans le souvenir, si je cache la chose. Ces caractères-là indiquent le sujet. Donc, dans la présence de la bouteille, il y a la bouteille et il y a sa monstration à quelqu'un. Maintenant, les caractères thétiques, positionnels et de donation, les caractères de donation sont exactement ceux-là, en chair et en os, en tant que souvenir, en variation imaginaire. Essayez de varier maintenant, dès que je cache la bouteille, essayez de la voir avec une couleur rouge autour de la transparence. Ouais. En tant qu'on en parle, là maintenant, je la cache et je dis bouteille. C'est toujours la même bouteille qui se présente. Donc, ces caractères de donation, ces caractères positionnels, ces caractères thétiques, c'est douteux ou c'est certain qu'elle soit là, indiquent non pas la chose, mais quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre? Husserl l'interprète ces distinctions entre caractère chosique et caractère de donation, caractère thétique, etc. Il interprète ces distinctions en elles-mêmes valides comme une coupure, un abîme entre, d'un côté, la présentation des choses apparaissantes, donc entre l'apparaissant et ce qui n'est pas l'apparaissant, les caractères thétiques, etc., qui indiquent le sujet qui soit accessible à lui-même dans la sphère de l'immanence, dans une autre transparence pour le regard réflexif. C'est exactement la distinction cartésienne entre res extensa et res cogitans. Patočka l'appelle une méprise fatale, je le cite, c'est méprise fatale causée par l'hypothèque la plus lourde, autre expression de Patočka, léguée par le cartésianisme de Brentano, son maître. L'idée donc que les vécus, que les actes d'appréhension et leurs appuis, etc., immanents, seraient immédiatement accessibles à la conscience dans l'autre transparence du regard réflexif. Patočka contestera immédiatement, et c'est le premier geste critique qu'il fait, la pertinence de ce dédoublement de la sphère phénoménale. Donc, dans le il y a, c'est le dédoublement, autrement dit, la coupure extrême entre, d'un côté, la sphère de l'immanence et de l'autre côté, les transcendances qui sont constituées par le sujet qui anime des données immanentes pour faire surgir mystérieusement de l'autre côté, donc dans le monde, des chaises, des tables, des murs, des pièces. Il contestera évidemment la pertinence de ce dédoublement. Et donc, décisif pour lui est l'observation selon laquelle, je le cite, les caractères thétiques et autres, caractère positionnel, caractère de donation, apparaissent eux aussi, c'est ce que dit Patočka, apparaissent eux aussi dans le monde, dans le champ phénoménal, là devant moi. Ils ne sont pas présents en tant que vécu comme quelque chose de subjectif. C'est dans le monde le fait que cette bouteille soit douteuse ou certaine, le fait qu'elle soit en chair et en os ou revivifiée dans le ressouvenir est donnée dans le monde, là devant nous. J'ajouterais personnellement aussi les caractères situationnels, le fait que la bouteille soit à gauche ou à droite ou plus loin ou plus proche. Là aussi, c'est donné dans le monde. Autrement dit, tous les indices de l'activité subjective sont là aussi devant nous. Donc, il appuie, Patočka, cette décision de contester la séparation de la sphère de phénoménale en, d'un côté, la sphère immanente et de l'autre côté, la transcendance constituée à partir de la sphère immanente. Il appuie sur deux enchaînements argumentatifs. Le premier insiste sur la nature asubjective, autrement dit, pas immanente, des caractères d'appréhension, donc des caractères thétiques, des caractères positionnels et les modes de donation. Ces caractères-là ne sont pas des vécus accessibles dans l'immanence, mais se donnent eux aussi là devant nous, objectivement, dit Patochka. Objectivement, c'est-à-dire là devant nous. Ce n'est pas en tant qu'objet de l'objectivisme, mais là devant nous. Et le deuxième enchaînement argumentatif, plus important que la diversité des modes de donation, qu'une chose soit en chair et en os ou ressouvenue ou variée dans l'imagination ou donnée en tant que signification verbale, plus important, c'est d'un côté l'identité du donné, ce qui se donne est le même et le noyau coïncident sur lequel s'appuie la variation imaginaire, le ressouvenir, etc., et aussi la monstration elle-même. Donc, ce ne sont pas les facultés de l'âme qui comptent, ce qui compte, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui se montre de différentes manières. Commençons donc par le premier enchaînement argumentatif, les caractères positionnels, d'éthique et de donation, donc les caractères d'acte ou d'appréhension, tout comme, attention, les supposées données illéthiques, données immanentes sur lesquelles ils sont censés s'appuyer, apparaissent là devant nous, et non pas en nous, donc dans le monde et sur fond de monde, et non pas dans l'autre transparence de la supposée sphère immanente. Donc ces caractères sont là devant, dans, Patochka dit, sphère d'apparition, il dit aussi sphère phénoménale, il dit aussi apparaître à moi, ce sont des synonymes. Donc dans la sphère d'apparition, au même titre que les caractères chosiques. Dans le texte donc de 71, qui est le deuxième et le plus radical et le plus long d'ailleurs, la première étape de la démonstration consiste donc dans l'observation que l'on ne pourrait tout simplement pas distinguer entre différents modes ou caractères de donation, mon cher annonce, son imagination, etc., s'il n'y avait pas là devant nous, une différence entre les types d'apparition qui s'y donne. Et le premier exemple invoqué est très significatif. Ce sont les data des sensations, les fameuses données illéthiques. Vous voyez, là, le bleu, la transparence, la dureté, la rugosité, etc. Les data des sensations analysées par Russell, donc soit comme qualité libre, soit comme le bleu de la bouteille, soit comme impression douteuse, le brouillard, il y a une tache verte qui peut être le buisson ou la veste de l'ami. Ces data de sensation, ces deux espèces de data, sont toutes les deux des structures d'objets, dit Patochka, et n'ont rien d'immanent. Ce n'est pas d'abord mon bleu qui est ensuite animé pour faire surgir ici, devant nous, dans le monde de la bouteille et le bleu de la bouteille. C'est le bleu, qu'il soit un moment objectif qui conduit à la présentation de la bouteille ou qu'il soit considéré pour lui-même, ce bleu-là est à chaque fois un bleu objectif, autrement dit, là, devant nous. Jamais immanent. Donc, cette distinction est artificielle, dit Patochka. Évidemment, il se réfère au cercle de la cinquième recherche logique, qui différencie entre un rouge ou un... L'exemple de Russell est avec un rouge, désolé, la bouteille est bleue. Donc, entre un bleu senti et un bleu perçu. Le bleu perçu étant le bleu de la bouteille, le bleu senti étant... Russell a d'une certaine manière raison. Effectivement, c'est d'abord mon bleu. C'est aussi mon bleu. C'est un bleu qui se donne à moi et donc c'est mon bleu. Et Russell dit, c'est une visée. Mon regard anime ce bleu pour faire surgir, pour constituer la transcendance de la bouteille qui est aussi du bleu. Donc, Patochka, évidemment, conteste simplement l'existence du bleu senti. Ce n'est pas mon bleu, c'est un bleu là devant moi. Cette distinction, donc, pour lui, est artificielle. Et dans les deux cas, que ce soit le bleu de la bouteille ou que ce soit le bleu considéré pour lui-même, le bleu est objectif. Si nous nous concentrons notre attention sur la présence, sur la donation de la bouteille bleue, le bleu est un médiateur objectif qui se retire à l'arrière-plan. Si nous concentrons notre attention sur le bleu lui-même, le bleu se porte devant en tant qu'objet, mais n'est évidemment pas immanent. Et donc, sa conclusion est sans appel. Je cite Patochka, où voit-on là quelque chose? Je vous rappelle que son exemple traite la boîte de tabac rouge de Husserl. Et ensuite, il avait Patochka aussi toujours devant lui une boîte de cigarettes style soviétique. C'était des grandes boîtes. qui, voilà, il y a toujours les couleurs étaient imprimées un peu à côté des contours. Voilà. Donc, où voit-on là quelque chose qui ressemble à de l'animation d'une structure de données? Il se peut que les deux modes d'apparition du bleu, donc bleu qui passe devant en tant qu'objet indépendant et bleu en tant que moment objectif de l'objet, il se peut que ces deux modes d'apparition soient liés par un rapport de fondation réciproque, mais dans ce cas, c'est précisément parce qu'ils sont tous les deux objectifs. La donation de la chose avec et à travers ces médiateurs qualitatifs, la donation de la bouteille avec ou à travers sa transparence en bleu, ou la donation de la qualité du bleu comme objet autonome sur le regard, avec ses médiateurs choisis, le fait que c'est sur une superficie que vous voyez le bleu, n'implique évidemment aucun dédoublement du bleu en une impression vécue d'un côté et une couleur objective d'un autre. Dans les deux textes, tant en 70, celui sur la possibilité de la phénoménologie asubjective, qu'en 71, le texte sur l'exigence de la phénoménologie asubjective, Patočka qualifie de significative ou de caractéristique les hésitations de Husserl, selon le témoignage d'Ingarden, quant au statut précis des données illettiques. Les données illettiques, ce sont les datas de sensation, la rugosité, la couleur, etc. Husserl, dans le dispositif husserlien, donc ces data sont condamnées à se dédoubler, à remplir un double rôle, puisque la sphère d'apparition est divisée dans une région immanente fondatrice et une région transcendante, transcendante à la conscience, donc fondée, constituée. Et donc les data illettiques doivent être réelles au sens husserlien, autrement dit immanentes, elles doivent être dans ma tête, dans la conscience, d'un côté, et doivent aussi être des moments de l'objet. Donc, le bleu est évidemment dédoublé, de manière évidemment artificielle. Cette étrange conséquence donc, du dispositif husserlien, ce statut problématique des données illettiques, Husserl hésite constamment, c'est ce que rapporte Ingarten. Il ne savait pas où placer les données illettiques. C'est du côté de la noèse ou du côté du noème? Autrement dit, est-ce que c'est le bleu de la chose ou est-ce que c'est mon bleu? Et voilà, il est obligé de le dédoubler. Cette étrange conséquence, donc, découle nécessairement, selon Patočka, dans le texte de 70, des préjugés métaphysiques se trouvant au cœur de sa démarche, de la démarche husserlienne. Je cite Patočka, « La réduplication amorcée par la disjonction des modes d'apparition en objectif et subjectif. » Cette réduplication est due, je cite de nouveau Patočka, au parti pris qui empêche Husserl de voir dans son autonomie, le champ phénoménal qu'il a lui-même découvert. Le champ phénoménal, le « il y a » n'est pas subjectif, n'est pas de prime abord subjectif. Il a un destinataire, mais le « il y a » qui se montre n'est pas mon « il y a ». Il est mon « il y a » en tant que ce que je reçois. Mais, de même, dans le texte de 71, ce dédoublement des data illettiques qui doivent être rangés à la fois du côté noétique et du côté noématique est dit ne pas être fortuit, et je cite de nouveau Patočka, car l'unité noétique, donc vous vous souvenez, voilà, vous avez la chance de travailler avec un Husserlien plus compétent que la grande majorité d'autres Husserliens. Je suis désolé pour le compliment très jamais, mais c'est vrai. L'unité noétique, la noèse, est la visée, ce que fait le sujet. Cette unité noétique, dit Patočka, est en toute probabilité une pure projection de l'unité noématique, de l'unité de ce qui est donné sur le plan phénoménal. Donc, les data comme qualité libre sont des, comme bleu, comme le supposé mon bleu, sont en fait des objets spécifiques là devant nous. De même, les data, les données illettiques comme impression confuse, c'était l'autre exemple d'ailleurs hérité de Descartes. Il y a là dans le brouillard du verre qui pourrait être bien la veste de mon ami, mais qui s'avère être le buisson. Comment se fait-il que ce n'est pas, que de prime abord ce n'est pas la veste de l'ami? Et cela est censé, depuis Descartes, montrer ce que fait le sujet. C'est le sujet qui met en ordre le divers des sensations. Mais même les data analytiques en tant qu'impression confuse, par exemple, dit Patochka, au réveil, avant que le vécu n'assume le contour des choses. Donc, imaginez-vous, vous vous réveillez brusquement et vous avez le chaos, le fameux chaos conscient de sensations. Même là, loin d'indiquer un fondement subjectif de l'apparition, donc loin d'être les composantes immanentes sur lesquelles devrait s'appuyer l'apparition en général, ces données sont de toute évidence, bien que sous la forme, je cite Patochka, d'un simple brouillard, un chaos qui ne ressemble en rien aux choses, les data analytiques sont là aussi, ont un caractère d'objet. Il dit dans un autre texte, un chaos de sensations n'est pas absence du monde, mais c'est un monde chaotique, ce qui est complètement différent. Et Patochka conclut, où voit-on là quelque chose comme un acte ou un vécu? Tout comme les données éthiques, les caractères thétiques de positionnel et de donation apparaissent là devant nous, dans le monde, comme donation perspective des choses, comme apparition d'autres ou certaines des choses sur fond de monde, ou comme présence en chair et en os des choses, ou comme présence sous le mot d'absence des choses en tant qu'évocation imaginaire, du type de ressouvenir, ou comme variation imaginaire, ou comme présence symbolique par les lieux tenants qui sont les mots, les phonèmes et les signes écrits. Patochka écrit dans le texte de 71, je le cite, il y a une différence entre les caractères que j'attribue à la chose même, comme ses propriétés, et ceux qui, bien que donnés de concert, ne lui appartiennent pas, mais à l'aide et sur le fondement desquels elle apparaît. Il s'agit évidemment de caractères positionnels, thétiques et de donation. Mais les deux espèces de caractères apparaissent dans le monde, dans le champ phénoménal, là, devant moi. Ils ne sont pas présents en tant que vécu, comme quelque chose de subjectif. Donc, le fait que cette salle de cours, avec ses choses, table, chaises, murs, etc., le fait que cette salle me soit donnée ou nous soit donnée dans des perspectives indique évidemment la centration de l'apparaître qui se groupe autour du destinataire. Le fait d'être plus à gauche ou plus à droite, plus loin ou plus près d'un centre perceptif indique une certaine activité subjective. Mais justement, l'unique indice de l'activité subjective, c'est la donation perspective des choses, la donation douteuse ou certaine des choses. Autrement dit, le sujet ne se voit lui-même que de manière indirecte en voyant la donation perspective des choses, le fait que les choses se centrent autour de lui, etc. Autrement dit, c'est en tant que donation perspective des choses et comme donation douteuse ou certaine ou en tant que donation chère ou non représentationnelle des choses que l'activité subjective apparaît. En 71, Patochka est on ne peut, dans le deuxième texte, il est on ne peut plus explicite. Je le cite, la subjectivité des caractères thétiques et des caractères de donation est extérieure, là devant nous, au même titre que les choses mêmes qui apparaissent. Ce n'est pas la même chose, mais c'est toujours là devant nous. Et cette réflexion est évidemment accompagnée d'un constat qui est récurrent chez Patochka, tant dans les articles publiés que dans les manuscrits de travail qui les préparent. La perception interne des vécus est un mythe. La saisie des vécus dans l'évidence de l'auto, c'est une expression de Patochka, dans l'évidence de l'autoperception absolue, la saisie des caractères non chosiques sur le fondement de quoi la chose apparaît à l'aide, je cite de nouveau Patochka, d'une possible perception interne qui les appréhende en original, tout cela est un mythe. C'est contesté vigoureusement. Et donc, évidemment, cet argument rend immédiatement caduque la séparation de la sphère d'apparition, donc du grand Ilia, en une sphère immanente et une transcendante constituée comme corrélat de la première. Je résume, les data de sensation ne sont pas des composantes réelles, c'est-à-dire immanentes, internes à la conscience du vécu, mais bien des objectivités ou des moments objectifs, là, devant nous, qu'elles soient des soi-dites qualités libres ou qu'elles soient des impressions confuses. Il est donc inutile de les dédoubler pour en faire des moments à la fois de la noèse et du noème, Et le dispositif ossérien de l'intentionnalité perceptive comme animation des données hylétiques selon une visée spécifique est un mythe à revoir de fond en comble. Les indices même de la visée, donc le côté subjectif, les caractères positionnels éthiques et de donation, bien qu'étant non chosiques, apparaissent à leur tour là devant nous, là devant moi. Dans le champ phénoménal, tout aussi objectivement, c'est-à-dire phénoménalement, que les caractères choisis, que sont les data, les qualités, etc. La perception interne, l'accessibilité dans l'autotransparence des accomplissements subjectifs est de même un mythe. La consistance de la sphère immanente est ainsi profondément contestée. Il n'y a pas d'intimité. Toute intimité est extime. Pour citer voilà, Lacan, qui est cité par Barbaras, qui commente Patochka. Mais qu'en est-il des modes de donation ? Parce qu'il y a quand même là quelque chose comme des traces d'une activité subjective. Le fait que je puisse varier dans l'imagination ou dans le ressouvenir, ou que je puisse revivifier dans le ressouvenir la présence d'une chose, est quand même quelque chose que l'on pourrait qualifier d'immanent, de dans ma tête. Okay. La réponse prendra la forme chez Patochka de la deuxième chaîne argumentative que je vais vous présenter et qu'il emploie dans ses critiques adressées au CERL, qu'il estime lui-même d'être d'une grande importance, c'est celle de la donation du même, donc de la même chose, en différentes guises. Ce deuxième fil conducteur, que Patrick suit dans les critiques qu'il adresse au CERL, interroge le fait que c'est une même chose qui est présente, qui est manifeste, que ce soit en chair et en os, ou c'est-à-dire en guise intuitive, ou que ce soit sous un mode revivifié, ou dans une variation imaginaire, ou sous le mode encore plus déficient de présence qu'est, selon CERL, l'évocation par symbole. L'évocation, voilà, je vous dis maintenant bouteille, et vous comprenez le mot. Mais Patochka dit, ne se concentre pas sur les accomplissements subjectifs, mais sur le noyau de coïncidence qui est toujours présent dans l'identification de la même chose en différentes guises d'apparition. Autrement dit, l'imagination ou le souvenir d'une chose, tout comme son évocation langagière, ont leur sens, l'imagination, le souvenir, etc., ont leur sens parce qu'ils sont des modes de donation de la chose en question. Sans la bouteille, le fait maintenant que je vous prie de vous ressouvenir de la bouteille, que je vous prie de vous imaginer une bouteille avec une étiquette rouge, sans la bouteille, tout cela n'a pas de sens. Sans la bouteille, le concept de bouteille n'a pas de sens. Donc, l'essentiel dans la donation en différentes guises d'une chose ne sont pas tant les facultés de l'âme, donc les différentes intentionnalités, mais le fait qu'il y a là une synthèse d'identification, que c'est la même chose qui est présente, qui est évoquée dans le souvenir, qui est présente en chair et en os, qui était d'ailleurs auparavant présente en chair et en os. Sans cela, aucune évocation n'a pas de sens. Le texte de 70 commence la série des critiques en remarquant, je cite Patochka, que le non-intuitif, donc l'évocation soit imaginaire, soit par des mots, le non-intuitif qui apparaît dans un monde déficient de donation est lui aussi un être qui n'est pas de nature subjective égologique. À propos du cas de la conscience de signification, donc du mot, je vous dis bouteille et vous n'êtes pas, évidemment, vous ne voyez pas la bouteille, vous n'êtes pas encore au moment où vous évoquez dans l'imagination la bouteille, mais vous comprenez ce que je vous dis quand je dis bouteille. Donc, même à ce niveau-là où la bouteille est la moins présente, tout en étant quand même donnée, même à ce niveau-là, Patochka, même à propos de ce niveau-là, Patochka écrit en 71, dans le deuxième texte, je le cite, Husserl lui-même finit par reconnaître que même dans ce cas, il y a là, c'est-à-dire devant nous, je souligne, davantage que les sons proférés, le signe graphique, etc. Or, ce plus, ce qui est plus que le signe graphique, n'est rien de subjectif. C'est la chose même qui est là, sur un mot déficient de donation. Ce qui est là n'est pas un vécu. Ce n'est rien de subjectif au sens d'égologique, c'est l'indice de la chose. Donc, même dans l'activité subjective la plus subjective, la plus intime. Je pense à une bouteille. Même là, c'est la bouteille qui est l'essentiel. Le nombre de coïncidences. Et c'est elle qui est, y compris quand j'y pense, là devant nous. En passant, soit dit, il n'y a pas de pensée sans temps, c'est-à-dire sans localisation. Mais on peut dire à un moment donné, je fais l'époque en étant, je fais la réduction en étant assis à mon bureau. Donc, mais littéralement, Patochka a d'ailleurs une réflexion depuis les années 40 de la sédimentation de l'activité subjective dans le corps propre, plus précisément dans le cerveau. Donc, les pensées ont un lieu et les pensées ont aussi un temps, c'est-à-dire le pensée se fond sur fond de monde. La donation autre transparente et immédiate des vécus est un pur mythe. Vous ne savez pas ce que vous voulez dire avant de le dire. Vous ne savez pas ce que vous voulez penser avant de littéralement penser, c'est-à-dire de vous engager dans un enchaînement qui prend du temps, qui a sa place. Donc, voilà. Il y a un autre texte qui est magnifique, qui est un... Patochka fait plusieurs synthèses de sa pensée à la fin des années 60, en 69, et au début des années 70, notamment dans le magnifique texte dont Émilie vous a déjà parlé, qui est le séminaire Platon et l'Europe de 73. Et dans le séminaire Platon et l'Europe de 73, la deuxième séance du séminaire est d'ailleurs la meilleure introduction à la phénoménologie à ma connaissance. Je vous conseille vivement de regarder. Dans ce séminaire d'été de 73, Platon et l'Europe, Patochka présente la phénoménologie en tant que telle comme une enquête sur l'apparaître, sur la manifestation en tant que telle. Et là aussi, la donation du même en différentes guises, donc du même selon différents modes de donation, pour le citer, et le guide choisi pour thématiser la manifestation au-delà du manifesté. Là aussi, en 73, Patochka insiste sur la concordance des guises, la concordance structurelle entre la manifestation en chair et en os et la manifestation déficiente. Là aussi, si vous me permettez l'exemple, regardez, il y a la bouteille, là vous la voyez devant vous, fermez les yeux maintenant, ou permettez-moi de la cacher. La bouteille, souvenez-vous de la bouteille. Comment savez-vous que c'est la même bouteille? Ben, vous allez de nouveau et vous regardez. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le grand il y a évidemment la bouteille, mais il y a la bouteille maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et vous pouvez y revenir. Le grand mystère du grand il y a est toujours là, donné dans le simple fait que c'est une même chose qui se montre en différentes guises. C'est le sens de cette réflexion qui est extrêmement intéressante en Platon et l'Europe. Maintenant, quant à ce noyau de présence lui-même, donc à l'appréhension en tant qu'identique d'un même objet, y compris à travers différentes perspectives. Regardez, c'est la même bouteille, si je la tourne. C'est l'immense mystère. Non, mais Husserl s'appuie sur ça, dans les leçons de la conscience intime du temps. Il s'appuie pour ça, pour faire le tournant subjectif. Il dit, c'est moi, c'est le sujet qui colle cette face-là, cette esquisse-là, à cette esquisse-là, et à cette esquisse-là, parce que c'est le sujet qui est capable de rétention, et donc de capture de tout juste passé. Mais Patochka dira évidemment l'inverse, il dit il n'y a pas de capture possible s'il n'y a pas déjà une synthèse. C'est la même chose qui se montre maintenant, et maintenant, et maintenant, et c'est l'unique, c'est à condition que ce soit la même chose, et donc le monde qui se montre maintenant, et maintenant, et maintenant, qu'il y a une synthèse subjective possible. Il dira à un moment donné, dans les années 72, que le sujet, évidemment, est le destinataire de l'apparaître, et il ne fait le temps du monde se transforme en temporalité humaine. L'espace, le grand espace du monde se transforme en spatialité humaine, c'est-à-dire dès qu'il est accueilli. Mais il n'y a pas... Le sujet ne fait qu'accueillir cette synthèse. Il ne la fait pas. Patochka dit, qu'est-ce à dire que les différentes esquisses se donnent en tant que donation d'une même chose? Qu'est-ce à dire que différentes données sont appréhendées dans le même sens, animées par la même intention? Rien d'autre que ceci. Les différentes faces d'un objet de la perception, par exemple d'une boîte, bon, je dis une bouteille, apparaissent comme faces de la même chose. Or, la chose qui apparaît dans ces aspects n'est évidemment pas une intention, mais une chose maintenue comme telle à travers une pluralité de perspectives. Fin de la citation. Le résultat principal donc, de ces analyses de la donation de la même chose en différentes guises est le fait que l'identité asubjective de la chose, qui n'attend pas le sujet pour ce faire, et le noyau, y compris des modes de donation déficients. Autrement dit, le sujet n'est pas responsable, mais ne fait qu'accueillir, n'est pas responsable de la manifestation, mais ne fait que l'accueillir. Ce qui l'accueille, ce sont des choses déjà individuelles. Donc, vous remarquerez que le deuxième enchaînement argumentatif vise le volet remplissement de dispositifs où ces liens visent à remplissement. Le remplissement n'est pas une synthèse du sujet. Et le premier enchaînement argumentatif vise la visée. L'appréhension, en fait, se montre dans le monde comme les choses. Et là, le dispositif où ces liens de l'intentionnalité est revu de fond en comble. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est la critique la plus dévastatrice. J'arrive à l'héritage aristotélicien. Désolé, je suis trop long, j'essaierai d'aller vite. Mais c'est... peut-être... Non, je saute quelques citations. Donc, l'héritage aristotélicien. Dans le texte de 60... Dans un texte de 69 qui est... qui s'appelle « Le monde naturel dans la méditation de son auteur 33 ans après », c'est un des textes de synthèse les plus importants de la pensée de Patočka, où lui-même essaye de se démarquer par rapport à Husserl, Heidegger, etc., et de dire ce qu'il voulait faire. Patočka explique quel est en définitif le sens, je le cite, en définitif le sens, de l'interprétation comme mouvement de l'existence humaine. Le sujet n'est pas un regard théorique, le sujet est un mouvement. Il dit, il commence par observer que la réalisation des possibilités, qui est la définition heideggerienne de l'existence, est en fait rien d'autre que la définition aristotélicienne du mouvement, le mouvement étant l'energia, l'intellegia, donc l'acte de la puissance en tant que telle, chez Aristote. C'est le sommet de la pensée aristotélicienne de la nature, en physique 3. Donc, Patočka applique cette définition d'Aristote à la définition heideggerienne de l'existence. Il dit, oui, Heidegger, vous avez raison, le sujet vit dans des possibilités, mais cela veut dire qu'il est mouvement. Qu'il est mouvement, il ne projette pas, il y a en 72 une critique d'ailleurs tout aussi dévastatrice adressée à Heidegger concernant l'Entwurf, le projet des possibilités. Le sujet ne projette rien. En fait, il hérite en tant que corps propre, comme héritage de corps propre, ses possibilités à sa disposition, qu'il n'a qu'à assumer. Ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas la libre décision du sujet regarder dans ce spectre et d'aimer le rouge plus que le bleu, parce que le rouge est le rouge des fruits qui l'objet le plus convoité de notre perception, de la perception de notre espèce pour au moins 400 000 ans, voire plus. Donc le rouge, c'est la raison pour laquelle le rouge à lèvres est rouge. C'est parce que nous aimons les fruits mûrs. Mais vraiment, les oiseaux voient dans le spectre du vert plus, et donc pour eux, les aubergines sont d'un rouge resplendissant, et pas pour cette couleur-là. La portée de ce geste, donc de lire l'existence en tant que mouvement, est la suivante, je cite Patočka, c'est décisif. Le mouvement serait ici le moyen terme entre deux manières fondamentales dont l'être découvre les temps. Ces deux manières, dont l'être découvre le temps, sont d'un côté l'individuation primaire des choses, la synthèse que je ne fais que recueillir. Ça ne dépend pas de moi, de l'activité subjective, que cette bouteille soit une bouteille. Cette bouteille est, enfin, ses composantes au moins, le résultat de la sédimentation d'une synthèse technique, les producteurs, mais qui s'appuie sur l'individuation physique des choses. Le fait qu'il y a des pierres, des matières premières, etc. Ça, c'est le premier volet de la manifestation, c'est l'individuation première. Le deuxième volet de la manifestation, c'est l'apparaître à quelqu'un. Cette synthèse se donne à quelqu'un. Et Patočka dit, je le cite, « Les choses seraient alors ce qu'elles sont, non pas à partir de l'ouverture secondairement humaine, mais déjà à partir de l'ouverture primordiale physique de l'étant par l'être. Notre propre individuation appartiendrait elle aussi à cet univers de l'individuation primordiale, englobant tout ce qui se dévoile initialement dans sa simple advenue, dans son déploiement, sa naissance, sa disparition. » C'est la même réflexion qui est faite avec quelques variations lexicales. Il ne parle pas de monde et de manifestation, mais il parle de l'être, dont l'autre grande synthèse de la fin des années 60, qui est traduite en français sous le titre « Leçon sur la corporéité ». C'est le cours que Patochka a donné par hasard. Il a pu donner deux cours, l'un des, dans les années 60, l'un des cours, c'était une présentation de la phénoménologie et c'était, c'est traduit « Leçon sur la corporéité ». Pourquoi je vous rappelle tout cela? Parce que déjà, Aristote est impliqué dans la définition de l'existence comme mouvement, et le mouvement est le moyen terme, ce qui fait la liaison entre ce que fait le sujet, ce qu'est le sujet, c'est-à-dire le destinataire de ce qui se montre, et l'individuation des choses. C'est la même définition qui est appliquée à la fois au sujet et à l'individuation des étons. Et là aussi, c'est une idée aristotélicienne. Je vais vite, donc je vous épargne les citations, mais c'est en écrivant son grand Aristote dans les années 60 que Patochka revient sur deux grandes idées. La première idée aristotélicienne, c'est le monde, la physis, n'est pas juste un amas des choses, mais un amas des choses qui bouge à l'intérieur du monde, mais l'amas des choses qui bouge à l'intérieur du monde en étant présente maintenant, et maintenant, et maintenant. Il appelle mouvement ontogénétique, cette physis. Donc, le monde, l'univers, la nature n'est pas juste la totalité de tout ce qui est, mais c'est la totalité de tout ce qui est se donnant, éclosant maintenant, et maintenant, et maintenant de nouveau. Donc, la physis, dit Patochka, est restituée dans sa nature ontogénétique. La chose qui compte, c'est que donc, en écrivant son grand Aristote, dans les années 64, Patochka écrit un petit texte qui est, à mon sens, le plus beau texte jamais écrit sur Aristote dans l'histoire de la philosophie, qui essaie de cibler l'intention philosophique d'Aristote. Et il dit, Aristote se concentre sur, encore comme le présocratique, sur cet aspect ontogénétique de la physis, du mouvement du monde, et en plus, il se rend compte que l'apparaître à quelqu'un, la manifestation pour quelqu'un, n'est rien qu'une variante de ce grand se montrer, qui est, voilà, il y a des choses maintenant, et maintenant, et maintenant. Et cette conjonction-là, Aristote la pense en termes de acheminement vers le maximum de détermination. Autrement dit, ce que veut le monde, ce que veut la physis, c'est de créer autant d'individus déterminés que possible. Et ce que veut la physis en faisant un pli sur elle-même, c'est aussi d'ajouter à cette détermination la détermination de la lumière, de la clarté, c'est-à-dire de la donation de l'apparaître à moi. L'univers fait comme un pli sur lui-même pour se regarder. C'est ça ce que le sujet. Mais il y a une définition commune, c'est l'acheminement vers le maximum de détermination. Donc, les deux grands héritages qu'Aristote lègue à Patochka et qui font aussi la charpente de ses dernières réflexions dont Platon et l'Europe, donc en 73, et aussi dans la confrontation amicale avec Fink, les deux volets de l'héritage sont les suivants. Il y a le mouvement ontogénétique crée les synthèses que le sujet ne fait qu'accueillir. Vous vous souvenez du deuxième enchaînement argumentatif, c'était la donation du même en différentes guises. C'est donation, donc monstration, et du même qui compte, pas les différentes guises. Ça, c'est la physis, la manifestation première. Le deuxième héritage est, à mon sens aussi, le plus décisif, c'est il y a possibilité de penser sous une même définition l'apparaître première, l'individuation physique des individualités, des choses, et l'apparaître à moi, et le régime phénoménal qui n'est pas subjectif, autrement dit, qui n'est pas l'œuvre du sujet. Et cette définition commune, c'est le mouvement, c'est-à-dire comme acheminement vers le maximum de détermination. Je ne sais pas combien de temps j'en ai, ou si je dois...
Quelques minutes.
Quelques minutes.
Ça conclut, oui.
Qu'est-ce qui se passe dans la donation? Bon, je suis désolé, je dois vous découvrirez peut-être plus tard la beauté de la confrontation de Patochka avec Fink, mais ce qu'il dit, c'est, en partant de Fink, c'est que l'apparaître à quelqu'un est, dans le monde de la grande individuation primaire, est contingent. Un monde exemple de tout centrage, dit-il, et du domaine du pensable. Si vous modalisez, c'est-à-dire si vous soumettez à l'épreuve du possible, le régime phénoménal, l'apparaître à moi, à quelqu'un, cet apparaître à moi se montre très fragile. L'on pourrait penser à un univers sans sujet, sans vie, sans... Voilà. En revanche, puisque il y a déjà dans ce monde le régime phénoménal, l'apparaître à quelqu'un, la manifestation secondaire, Patochka dit que nous pouvons considérer que le cœur du monde, la fusis elle-même, l'individuation, est co-déterminé par le régime phénoménal. Comment ? Bah, non pas téléologiquement, de manière immanente, ce n'est pas comme si la vie était le but de l'univers, mais de manière, je dirais, d'une téléologie neutre, hein, comme le fait qu'il y a déjà monstration apparaître à quelqu'un montre que cette possibilité est inscrite dans le cœur du monde et que donc le monde est pensable comme au moins ce qui peut accueillir quelque chose comme une monstration pour quelqu'un. Et donc, si l'apparaître à quelqu'un a ses propres règles et est parfaitement autonome, le fait que quelque chose soit plus loin, plus proche, le fait que les qualités, les modes de donation, les caractères éthiques, etc., ne sont pas des caractères chosiques, le fait donc que le champ phénoménal est séparé, différent et autonome par rapport au régime causal des individualités, indique que cette possibilité-là est inscrite dans le corps du monde et risquerait d'être à jamais non déployée si elle n'était pas déjà là. Autrement dit, je vais faire simple, c'est le sens de l'héritage d'Aristote. C'est il y a inscrit dans le corps, dans l'essence du monde, de la monstration de tout ce qui est de la manifestation première, de l'individuation des choses, il y a inscrit de la possibilité que ce monde se montre à quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons appliquer la même définition qu'on l'appelle manifestation ou mouvement à ce que fait la fusis et ce que font les sujets. Et c'est une conséquence que Patochka appelle métaphysique. Il la donne dans le cadre de sa philosophie phénoménologique, non pas de sa phénoménologie. Et c'est le premier volet, je suis d'accord avec Miller Divel, qui fait la différence entre les prémices de la philosophie phénoménologique de Patochka, qui sont cette réflexion-là. Il y a une définition commune de la manifestation des individualités et de la manifestation pour quelqu'un. Il y a une deuxième couche qui est celle qui est une réflexion sur la liberté. Même si le sujet n'est pas responsable des synthèses chosiques, le sujet est responsable de cette partie-là de la manifestation qui serait à jamais irréalisée sans lui. Autrement dit, le fait que vous disiez que, voilà, dire la vérité est la possibilité du sujet, enfin, pas tout ce qu'a dit de l'âme, il revient au lexique platonicien, mais dire que cette bouteille était là auparavant, c'est donc être capable de vérité, vous l'avez vue, maintenant elle est cachée, mais vous pouvez dire qu'elle y était. Cette possibilité-là, d'ailleurs, est inscrite en tant qu'essentielle dans le cœur du monde, et donc en disant la vérité, vous respectez cette possibilité extrême et étrange du cœur du monde lui-même, donc du cœur de ce qui se montre, qui est celle de l'accord entre voilà, le noyau coïncident de la présence les mots d'efficion. Autrement dit, ceux qui mentent, ceux qui sont en train de mentir, ceux qui font voilà, la propagande, pour faire simple, sont contre l'essence même de la manifestation et donc trahissent quelque chose qui est essentiel au cœur du monde. Je m'arrête là, je vous remercie, désolé d'avoir abusé de votre patience.
Merci pour cette conférence qui nous a conduit au cœur de la question de la phénoménalité, de l'apparaître même des choses et de savoir à quelles conditions les choses peuvent être là pour moi, devant moi. J'aurais pour ma part deux questions alors de nature très, très différente. Alors, en dépit du compliment, le Husserlien en moi réagit à la critique.
Magique comme
voilà, juste une remarque sur le chaos de sensations qui est un monde chaotique. Moi, il me semble que Husserl ne dirait pas autre chose, à savoir qu'effectivement, c'est un monde dans lequel il y a un conflit d'intentionnalité, ce qui se donne ne parvient pas à s'unifier. Donc, effectivement, ce serait bien un monde chaotique. Donc, Husserl a toujours maintenu que, par rapport à Kant notamment, que la synthèse, ce n'est pas exactement un acte du sujet, c'est la manière même dont l'objet se donne au sujet. Notamment, il a tenté de défendre son concept de synthèse par rapport à Kant. Et alors, ma deuxième question porte plutôt sur la fin de votre exposé. À lire Patočka, il m'avait semblé que le retour à Aristote pour penser le mouvement était aussi une manière de se démarquer par rapport à la science moderne. Autrement dit, de faire plutôt appel à Aristote pour penser l'existence comme mouvement plutôt qu'à la science moderne. Et donc là, c'était plus une démarcation par rapport à Husserl, mais plutôt par rapport à la science moderne.
D'accord. Merci beaucoup pour vos questions. Je commence par la première. Évidemment, Husserl dirait que le monde est unifié. Mais n'oublions pas, Husserl dit aussi que le monde peut être douteux. Autrement dit, l'hypothèse de l'anéantisation du monde est une hypothèse prise au sérieux, ça l'est évidemment dans les idées, et c'est un argument considéré comme décisif pour montrer justement que la transcendance se constitue dans l'immanence. Autrement dit, l'unité du monde est d'abord mon unité, le contenu du monde sont d'abord mes contenus. L'argument de Patočka arrive au... l'argument que j'ai évoqué traite d'abord du contenu même des vécus, les données éthiques. Qu'elles soient, que le bleu, le rouge soit clair, des qualités libres, ou ces qualités soient douteuses, n'indique pas une immanence de ces qualités. Donc, bien sûr que Husserl dira que le monde est contre Kant, que le monde ne peut pas ne pas être unifié. Il dira en même temps que ce monde est unifié par le sujet. Est unifié par le sujet, autrement dit que la synthèse mondaine est opérée par le sujet, sinon le monde resterait à jamais douteux. Et d'ailleurs, il peut rester douteux, mais le sujet n'est pas douteux. Et Patočka conteste le dispositif même de ce questionnement cartésien. L'on ne pourrait même pas parler d'un monde s'il n'était pas déjà unifié. Dans chaque présence chosique, nous n'avons pas des qualités qui sont animées par une intention. Vous savez pourquoi ça marche chez Husserl? C'est pas chez Husserl, c'est chez Brentano et chez les autres. Est-ce que vous avez en tête le petit dessin fameux du canard lapin? Husserl dit, il y a là des données éthiques, il y a le même bleu et le même noir et blanc, qui sont animés de différentes manières. Et pour que je voie le lapin ou le canard. Et donc, dans la donation de toute chose, il y a en fait le choix subjectif qui compte le plus. Autrement dit, donation de choses veut dire animation des données. Et Patočka dit, le noir et le bleu ne sont pas des noirs et des bleus chosiques. L'animation n'est pas libre. Donc, le fait de voir le canard et le lapin, vous ne pouvez pas voir, vous êtes obligé de voir soit le canard, soit le lapin, et vous ne pouvez pas voir là un cosmonaute ou un char russe. Donc, tout cela n'est pas libre, ce n'est pas le sujet qui décide, les supposées intentionnalités sont les lignes de force de l'appareil. Vous héritez tout un appareil de compréhension du monde qui déjà le découpe, puisqu'il s'agit du découpage du divers par le sujet. Vous l'héritez, cet appareil, et autrement dit, il n'est pas subjectif, il est asubjectif. Ça ne veut pas dire son sujet, ça veut dire le sujet hérite et n'est pas constituant. Voilà. Quant aux données qui sont animées, ces données-là ne sont pas immanentes. C'est si simple que ça. J'espère que j'étais suffisamment clair, même si j'étais un peu radical dans ma présentation de Husserl, enfin caricatural.
Faut être radical pour présenter ses thèses, c'est normal.
Quant à la science moderne, effectivement, c'est absolument vrai, votre remarque est vraie. D'ailleurs, je pense que Patočka le dit lui-même. Il y a un autre texte magnifique qui est un texte de 10 pages, qui est le premier texte traduit par Eric Abrams dans le recueil de textes qui s'appelle Le mouvement de l'existence humaine. Je suis tellement habitué à faire le raccourci et d'écrire MNMH que. Le texte s'appelle La préhistoire du concept de mouvement. C'est un texte absolument magnifique. Je vous conseille aussi 10 pages, vous pouvez le lire. Commencez par ça et par la deuxième conférence de Platon et l'Europe si vous voulez rencontrer Patočka. si vous ne l'avez pas fait encore. Et là, il dit effectivement qu'il doit retourner au-delà de la conception moderne de la science à une thématisation non pas du sujet, de l'activité subjective, mais du monde lui-même, en tant que se montrant, en tant qu'éclosant. Et où est-ce que vous la trouvez? Ben, vous la trouvez évidemment chez les présocratiques, mais c'est obscur, et vous la trouvez de manière explicite chez Aristote. Et le grand sommet de la pensée aristotélicienne, qui est la définition du mouvement, est en fait un sommet causé par une crise. Vous savez, la première réponse d'Aristote à la question de devenir est là, est matière, forme, privation. Autrement dit, comment est-ce que je décris le devenir, ce qui est? Ben, j'indique le point de départ et le point d'arrivée des substances. Et donc, il y a un mobile qui traverse, qui maintenant est bouteille pleine et qui sera bouteille vide. Et j'indique la privation, j'indique la forme finale. Et il y a le mobile qui traverse les deux. Mais c'est évidemment, dans le noyau de la métaphysique, on est à tête à zeta. Alors, il commence à se demander, mais qu'est-ce qui traverse le mouvement? Quel est le statut de la substance? Et là, il se rend compte qu'à chaque étape du devenir, c'est comme s'il faisait des photos avec sa matière, forme, privation. À chaque étape, il y a une forme, matière, forme, privation. Matière, forme, privation. L'arbre en fleurs, l'arbre en fruits, l'arbre. Il y a à chaque fois matière, forme, privation. Et la réflexion qu'il entame pour capturer le devenir, non pas en tant que série de photos, mais en tant que voilà, compréhension vraie du mouvement, est celle qui l'amène à la définition du mouvement en tant qu'acte de la puissance en tant que tel. Et c'est ce mouvement-là qui est le mouvement d'émergence des choses qui n'est pas traversé par un mobile, mais qui sédimente le substrat comme une mélodie. Sédimente ses notes, c'est un exemple que j'utilise Patochka, est aussi la définition du totieneinai, ce qui était pour être, ce qui est maintenant beauté, ce qui est maintenant beauté, ce qui est maintenant beauté. Et c'est cette réflexion-là, c'est ce mouvement ontogénétique-là que Patochka hérite d'Aristote, et effectivement, ce n'est pas pour dépasser la science moderne, c'est pour revenir à quelque chose que la science moderne a oublié. Le mouvement dans le monde n'est pas l'essentiel du mouvement. L'essentiel du moment, c'est qu'il y a monde maintenant, et il y a monde maintenant, et il y a monde maintenant. Merci pour la question.
Oui, à propos de l'intuition, je voudrais une double précision. Vous êtes d'accord pour dire que l'intuition, la simple sensation du bleu, n'est pas une sensation du bleu reconnue comme bleu. Parce que s'il est reconnu comme bleu, je suis au-delà de la sensation. Donc c'est une expérience très difficile à décrire. Puisque l'expérience a un sens, mais je ne peux pas dire que le sens, c'est que c'est une sensation du bleu.
Vous voulez que je vous réponde tout de suite? Déjà, c'est pire. Donc, c'est pas la sensation du bleu,
oui. Et
il y a du bleu. Et non pas juste il y a du bleu, c'est il y a du bleu dans le monde.
Oui, mais qui n'est pas reconnu
comme tache sur un fond.
Mais qui n'est pas reconnu comme bleu.
Attendez. Donc, si jamais il y a juste du bleu, vous n'avez même pas de bleu. Vous savez, ce sont les gestaltistes. On travaille là-dessus. Merleau-Ponty en hérite. D'ailleurs, Patochka connaissait parfaitement Merleau-Ponty. Il lisait tout. Hein. Et il cite d'ailleurs abondamment Merleau-Ponty. Si vous êtes dans une chambre qui n'est que bleu, autrement dit, la même nuance de bleu partout, sans variation possible, au bout d'un moment, vous ne voyez plus le bleu. Vous n'avez plus la couleur. Vous avez quelque chose comme un gris diffus qui est couleur de fond. Autrement dit, le bleu en tant que tel n'existe même pas. Il y a quelque chose comme une couleur. Si vous pouvez faire la différence, c'est parce qu'il y a contraste. Et donc, dès la donation de la première chose qui se démarque d'une autre chose, de la tache sur le fond, comme disent les gestaltistes, vous avez manifestation du monde qui n'attend pas le sujet pour reconnaître ces distinctions. La distinction est déjà donnée. Et c'est parce que la distinction est déjà donnée que vous pouvez faire la différence entre les couleurs. Donc, ce n'est pas que le bleu soit reconnu. Nous, comme bleu, c'est qu'il y a du bleu déjà différencié des autres couleurs, pour que vous le voyez. C'est simple, hein, l'on vous enferme dans une pièce sphérique d'une seule couleur, vous ne voyez pas la couleur.
Et alors, d'autre part, pour comprendre ce qu'on me dit, je ne dois pas intuitionner ce qu'on me dit. Si je vous dis, mais pas intuitionner. Pour comprendre ce que
c'est absolument vrai, sauf que vous ne devez pas revivifier. Donc, autrement dit, votre compréhension n'implique pas toujours l'imagination, mais elle implique la possibilité, votre compréhension des mots implique la possibilité d'un recours à l'imagination ou à la perception. Si vous vivez dans un monde purement langagier, À un moment donné, vous ne savez pas ce que vous disiez. C'est l'exemple de la propagande. À un moment donné, il y a le découpage de la réalité tellement grand que vous vivez dans un monde sans intuition possible. Mais même avant, il y a effectivement, nous avons accès à des significations. Nous avons, nous, la, les humains, la, nous sommes d'ailleurs la seule espèce linguistique, nous avons la possibilité de, d'évoquer par des phonèmes étranges, par des lieutenants, ce qui n'est pas ici et maintenant. Et c'est une possibilité extrêmement étrange, qui n'implique pas toujours une évocation par image, mais qui nécessite l'évocation par image pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Donc, effectivement, maintenant que je vous dis bouteille, vous n'êtes pas obligé de voir devant vos yeux bouteille. Mais si nous ne sommes pas d'accord, vous allez devoir faire. Vous allez devoir absolument invoquer la même chose évoquée. Autrement dit, ce qui était déjà donné avant que l'activité subjective ne se montre. Donc, je comprends le sens de votre objection. Je comprends les significations et donc le sujet fait quelque chose. Oui, mais vous comprenez les significations parce qu'il y a toujours la possibilité de recourir soit à donation intuitive par image, soit à donation intuitive en chair et en os par perception. Donc, autrement dit, c'est la même chose qui est là, même évoquée lointainement comme signification linguistique. Merci. Ça pose une question. Merci.
Y a-t-il une autre question ? Oui, Gilles ?
Merci, monsieur, pour votre conférence. J'aurais une question sur la première partie, pas sur la seconde, parce que là, il faut que je lise des textes que je ne connais pas. Et ne serait-ce que l'écart que vous proposez entre sa façon d'interpréter Aristote et puis la manière dont, évidemment, Heidegger la lit, et même, évidemment, dans Ein und Zeit. Ma première question tenait à la mise en relation de votre propos avec son introduction. Vous disiez que ce que disait contre Husserl et Heidegger. Alors peut-être que vous allez le régionaliser, je ne sais pas très bien. Dans l'élément de critique que vous avez formulé de manière extrêmement vivante dans votre première partie, moi j'ai l'impression de, sous couvert des... Mais j'ai l'impression d'entendre être étant avec l'exemple du moteur de la voiture.
Oui, c'est explicite, je ne sais pas, Toshka, il invoque Heidegger. D'ailleurs, il invoque Heidegger dans les deux textes que je vous ai cités, en 70 et en 71, soit par stratégie, soit parce qu'effectivement il croyait, mais il dit que là, le projet de phénoménologie subjective n'est rien d'autre qu'une manière explicite de synthétiser les premières critiques apportées par Heidegger à Husserl. Donc il le dit aussi de façon très modeste. Il dit « je ne fais rien d'autre que de vous montrer, à vous phénoménologues, Tugendhat, Fink et autres, ce que vous savez déjà de Heidegger. » En même temps, il est trop modeste. Parce qu'Heidegger n'est jamais suffisamment explicite, et ce qui se passe, il se passe quelque chose d'autre, il se passe deux choses en Ein und Zeit. Il se passe quelque chose comme la sortie du lapin du chapeau, qui est la tentative d'ailleurs, c'est un échec, d'interpréter l'espace comme le temps, comme étant une autre variante de temps. C'est très drôle d'ailleurs, parce que ça a lieu en termes de mouvement. Mais donc, c'est la surenchère de la temporalité, qui est aussi une surenchère de la subjectivité, bien que cachée. La deuxième chose qui se passe, c'est l'absence quand même en être étant du corps propre. Le corps propre est réduit à la main du design. Et aussi, pour que le monde soit le monde du design, Heidegger utilise un concept qui est très étrange et que d'ailleurs Patochka critique de manière explicite, qui est le concept de la projection des possibilités. Le monde dit Heidegger, est le monde du design. C'est le monde du design parce que c'est un monde de compréhension, c'est un monde de compréhension parce que c'est un monde que le design peut habiter, qui est en fait le monde de ses possibilités. Et Patochka le dit explicitement, bon, je n'ai pas le temps d'arriver à ses critiques à Heidegger, mais il dit que Heidegger subjectivise le temps, il dit aussi qu'il manque le corps propre, il dit aussi que le terme de projet d'Entwurf est un mythe exactement comme est le mythe, le dispositif husserlien de l'intentionnalité. Parce que c'est ça, c'est dans l'Entwurf que se transforme l'intentionnalité husserlienne chez Heidegger. Ce n'est effectivement pas une activité théorique du sujet qui constitue le monde, mais c'est quand même, ce sont des possibilités que le design lui-même projette. C'est ça le monde. Autrement dit, le monde est le monde de la compréhension. Et évidemment, pas tout ce que je dis, non, le monde n'attend pas la compréhension. la compréhension est un découpage éventuellement des synthèses qui se donnent déjà dans le monde. Qu'un schizophrène soit incapable de se concentrer sur l'objectivité de la table et des murs, mais se concentre sur l'objectivité du modèle du bois de la table et sur la rugosité différente des chaises, ça n'implique pas que c'est le sujet qui projette ces possibilités, ça implique le fait que le monde peut se donner dans plusieurs synthèses possibles. Autrement dit, que les synthèses du monde sont suffisamment riches pour qu'une variation du découpage objectif soit possible. Mais c'est le monde qui le donne. J'espère que... Donc, vous avez raison, votre soupçon est correct. En même temps, nous n'oublions pas que Patrick est très critique envers Heidegger aussi. Il accuse tout aussi que celle du subjectivisme, bien qu'il l'invoque quand il dépasse de prime abord celle. Mais merci pour votre question, ça m'a permis de préciser
Merci, monsieur, pour votre intervention. La question que je vous pose est très générale. Quelle est précisément la différence entre la phénoménologie assubjective de Patočka et l'objectivisme de la science positive, l'objectivisme de la latitude naturelle et de l'attitude naïve assumée pour cet objectivisme du point de vue de Husserl. Et donc, en deuxième question, c'est dans quelle mesure il y a encore une constitution, le concept de constitution, la phénoménologie de Patočka, où la constitution est aussi un mythe. Il n'y a pas de constitution.
Merci pour vos deux questions. Vous savez tous que le soi-dit subjectivisme de la pensée husserlienne est motivé non seulement par sa réflexion sur le temps, etc., mais aussi par l'objectif husserlien qui était celui de déréifier la conscience. Donc, il dit le sauveur de la philosophie est celui qui déréifie la conscience. Vous pouvez déréifier, donc ne pas rendre objet la conscience de deux manières différentes. La première est celle mythique, autrement dit, c'est un mythe, au sens que ça ne marche pas. Quant à Husserl, vous vous concentrez, vous découpez artificiellement une sphère qui serait propre, immanente, où la subjectivité fait ce qu'elle a à faire et qui est fondatrice pour tout le reste. La deuxième manière de déréifier la conscience, même si vous l'inscrivez dans la nature, est de déréifier la nature. Et si vous ne voyez pas la nature, donc la physis, comme un amas d'étangs, comme la totalité des étangs qui sont du type de la chose, si vous faites ça, si vous voyez le fait que le monde se montre, et autrement dit, que dans l'essence du monde, il y a aussi de se montrer, vous vérifiez aussi la conscience tout en insérant dans le monde. Autrement dit, la différence, c'est l'époque. La différence entre l'attitude naïve et la phénoménologie subjective, c'est le fait qu'il y a réduction. Réduction, dans ce cas-là, veut dire époque, et veut dire attention à ce qui se montre. Il n'y a pas ce qui compte dans le monde, ce ne sont pas juste les choses. C'est aussi le fait que les choses se montrent maintenant et maintenant et maintenant et maintenant. Et ça, ce montrer-là n'est pas visible dans la nature naïve. Mais ça ne veut pas dire que le fait que les choses se montrent maintenant et maintenant et maintenant ne veut pas dire que le sujet constitue les choses maintenant et maintenant et maintenant. Ça veut dire juste il y a monstration. Et le sujet est le destinataire de cette monstration. Quant à la constitution, Patočka le dit clairement, les supposées intentions sont les lignes de force de l'apparaître. Maintenant, quelles sont ces lignes de force? Je peux vous esquisser très vite, en deux secondes, un inventaire provisoire, mais déjà, là, la synthèse physique est une ligne de force de l'apparaître. Autrement dit, le sujet ne m'attend la manifestation, la physis ne m'attend pas moi pour qu'il y ait là des chaises et des murs. C'est la raison pour laquelle je peux y revenir si je sors de la salle. Donc, déjà, l'individuation physique est l'une des lignes de force. Ensuite, les caractères positionnels, que ce soit à gauche, le caractère situationnel, je dirais. Donc là, il y a une ligne de force géographique de l'apparaître, le fait que certaines choses me soient proches et d'autres lointaines. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas le sujet qui décide. Ensuite, là, vous savez, nous n'avons pas besoin des concepts pour avoir des classes. Un chat, c'est très bien ce qu'un chien, sans avoir le concept, la signification symbolique, les phonèmes, sans avoir le langage. Ça, c'est une autre ligne de force. Les grandes classes héritées par les vivants que nous sommes et qui font la grande distinction entre, je cite Patrick là aussi, entre l'accueillant et le non-accueillant du monde. Ce sont des lignes de force qui précèdent notre perception même. C'est la fameuse racine commune cherchée par Kant de l'entendement et de la perception. Mais cela ne veut pas dire que c'est le sujet qui constitue le sens de ces classes-là, il les hérite. Autrement dit, c'est le sujet qui est constitué par ce type d'appel. Okay? Donc, il n'y a pas constitution, il y a en revanche les lignes de force de l'apparaître qui effectivement orientent la perception. Merci à vous tous.